Je vous invite à tourner dans votre Bible à Jacques, l'épître de Jacques, qui se trouve vers la fin du Nouveau Testament. On va démarrer aujourd'hui une nouvelle série dans cet épître. Et donc, je vous propose de lire tout de suite Jacques, chapitre 1, versets 1 à 11. Donc, on va lire ça maintenant. Jacques, chapitre 1, versets 1 à 11. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Je vous invite à la prière avant d'aller plus loin. Seigneur, nous confessons que ta parole est vivante et efficace. Ta parole est acérée, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle est juge des sentiments, elle est juge des pensées du cœur. Seigneur, je prie afin que tu nous parles à travers ta parole ce soir. Sois glorifié par cette étude. Ouvre les yeux de notre cœur et illumine le sens de ce texte pour le perfectionnement de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a des chrétiens qui se réunissent dans leur maison aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas accès à une salle de culte. Pire, il y a des chrétiens qui se cachent pour rendre un culte à Dieu, parce qu'ils sont menacés à cause de leur foi. Pire encore, il y a des chrétiens qui souffrent en prison, qui ont été obligés de s'enfuir de leur pays parce qu'ils étaient poursuivis par des gouvernements hostiles. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leurs biens. Il leur manque les nécessités les plus basiques de la vie. Heureusement, notre situation en France n'est pas aussi grave que ça. Nous avons de la liberté, nous avons tous une qualité de vie globalement bonne. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien qui manque de notre vie, et surtout à notre vie spirituelle? Il manque toujours quelque chose, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont présents ou pour ceux qui va écouter peut-être sur l'Internet cette prédication, ce ne sera pas difficile d'identifier certaines choses qui nous manquent. Même en France, de l'argent par exemple, un logement bien adapté, un emploi convenable, la réconciliation avec un proche, l'affection d'un conjoint, la guérison d'une maladie, la réponse à une prière, etc. Il manque toujours quelque chose. Mais qu'est-ce qui nous manque le plus? La Bible ne nous promet pas de faire disparaître tous nos problèmes. Mais en même temps, elle nous promet qu'il ne nous manquera rien. Qu'il ne nous manquera rien. La Bible ne nous promet pas de rendre notre vie facile. Par contre, elle nous promet de faire de nous, les chrétiens, des disciples de Jésus-Christ. La Bible promet une croissance en termes de foi et de caractère chrétien à ceux qui aiment le Seigneur. et afin qu'il ne nous manque rien. C'est ce que dit Jacques dans le texte qu'on a lu ce soir. Alors Jacques, le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, a écrit son épître aux 12 tribus dans la dispersion. Historiquement, la dispersion faisait référence aux Juifs dispersés après que le territoire d'Israël a été conquis par des puissances extérieures. C'est ça la dispersion, surtout dans l'Ancien Testament. Mais ici, au début de l'épître de Jacques, je pense que les 12 tribus mentionnées par Jacques dans le verset 1, que ces 10 tribus désignent les chrétiens qui se sont enfuis de Jérusalem à cause de la persécution. Jacques, le frère de Jésus, était un apôtre à Jérusalem et une colonne de l'Église, selon ce qu'on lit en Galates chapitre 2, verset 9. Et donc, quand il s'adresse au peuple de Dieu dispersé, il parle à son assemblée, à son Église, qui a été frappée par la persécution. Il parle aux gens qui ont perdu beaucoup. Et on voit ce genre d'histoire en Acte 8, par exemple, quand l'Église à Jérusalem était frappée par la persécution. À cause de la persécution, les chrétiens de Jérusalem ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs moyens de subsistance, ils ont perdu leurs biens, leurs effets personnels, leur famille et leur position dans la société. Jacques s'adresse à des gens qui ont tout perdu et qui ont été tentés de perdre peut-être aussi leur foi. Mais en sachant qu'il ne peut pas faire grand-chose pour rétablir leurs biens tangibles ou matériels de ces chrétiens, Jacques, en tant que pasteur, en tant que berger, se préoccupe de leurs besoins spirituels afin de les encourager dans la foi. Il se préoccupe de leur persévérance, de leur sagesse et de leur humilité devant le Seigneur. Il leur rappelle que malgré les circonstances de leur vie, tout ce que nous l'avons par la grâce de Dieu. Jacques écrit à son assemblée pour qu'il ne leur manque rien. Il nous parle aussi aujourd'hui pour qu'il ne nous manque rien. Le livre de Jacques est souvent considéré comme les proverbes du Nouveau Testament. Il est difficile d'identifier des concepts théologiques qui unifient cet épître. Jésus n'est mentionné que 2 fois dans le livre, une fois au verset 1 et une fois dans le chapitre 2. Et Jacques, il change le sujet de son discours tous les quelques versets. Vous avez déjà remarqué, je pense, dans les versets 1 à 11. Le texte se lit comme une homélie pratique saupoudrée d'illustrations vivides. En plus, Jacques est souvent accusé par ses critiques de légalisme, c'est-à-dire quand on met l'accent sur les mérites humains. Son épître est souvent perçu comme une contradiction à la théologie de la grâce qui domine le Nouveau Testament. Il y a des chrétiens de chaque époque qui hésitent à appliquer l'enseignement de Jacques parce qu'il nous donne l'impression parfois que les œuvres, les actions humaines, comptent plus que la foi et que la grâce de Dieu. Par exemple, l'apôtre Paul nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, en Éphésiens chapitre 2. L'apôtre Jacques réplique que sans les œuvres, la foi est morte. Donc on a un discours un peu différent. Mais je pense qu'il faut lire ce livre avec un peu plus d'attention. Il n'y a pas de contradiction, à mon avis, mais une complémentarité entre ce que dit Jacques et ce que dit les autres apôtres dans le Nouveau Testament. N'oubliez pas que ce livre a été écrit dans un contexte juif à Jérusalem, indépendamment de la théologie de Paul. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Jacques utilise les circonstances difficiles des chrétiens pour leur faire constater leur besoin de la grâce. Il leur rappelle que Dieu leur donne libéralement pour qu'il ne leur manque rien. Dans les premiers versets de Jacques, chapitre 1, l'apôtre mentionne 3 choses en particulier que Dieu nous donne par sa grâce pour qu'il ne nous manque rien dans la foi, dans la vie chrétienne. Et on va étudier ces trois choses aujourd'hui. D'abord, selon les versets 2 à 4, Dieu nous donne le don de la persévérance face aux épreuves. C'est toujours délicat de parler des épreuves, mais c'est un sujet souvent abordé dans la Bible. Ici, l'apôtre Jacques suit le même raisonnement que l'apôtre Pierre en 1 Pierre chapitre 1. L'idée, c'est que les épreuves font partie de la vie. Les épreuves font partie de la vie. Ici, Jacques corrige l'idée un peu masochiste selon laquelle les épreuves seraient des bonnes choses en soi. D'accord ? Et il corrige aussi l'idée selon laquelle Dieu nous enverrait des épreuves par malveillance. L'épître de Jacques est un livre de sagesse pour les chrétiens. Son but est de nous faire comprendre comment vivre une vie fidèle face aux épreuves qui échappent à notre contrôle. D'accord ? Au lieu de nous donner un traité philosophique sur la souffrance, il nous encourage à développer la sagesse nécessaire pour tenir ferme face à la souffrance quand elle arrive. Selon Jacques, ce serait fou de maudire Dieu pour les épreuves que nous subissons. Et ce serait fou de faire de nos épreuves une source de joie en soi. En revanche, la joie qui nous encourage à avoir, c'est la joie qui vient en sachant que Dieu nous soutient lors des épreuves. Il utilise les épreuves pour forger notre caractère et notre attitude. On commence à voir l'utilité des épreuves quand on se confie dans le fait que Dieu peut utiliser ces épreuves pour une meilleure fin. Les épreuves, grandes et petites, servent à nous former dans la foi. J'ai un ami qui est réserviste dans l'armée de terre, ici en France, et quand il rentre à Lyon, après une semaine d'entraînement dans les Alpes ou un week-end en mission, il est toujours fatigué et parfois quand je le vois, je lui demande comment ça va, comment il va dans ses entraînements. Il me répond toujours, oui c'était dur, mais j'ai appris des choses intéressantes. C'était dur, mais j'ai perfectionné mes compétences dans un domaine. C'était dur, mais je suis un meilleur soldat aujourd'hui, une meilleure personne qu'avant. Et pareil, nos épreuves, les difficultés servent à nous entraîner dans la foi. Selon Jacques, nous ne sommes pas censés capituler ou faiblir face aux épreuves par une sorte de soumission passive. En revanche, les épreuves devraient activer en nous le plaisir de la foi en Jésus-Christ. Dieu est l'objet de notre joie dans ce texte, pas les épreuves en soi. Les épreuves servent à nous former dans la foi, à nous entraîner. Ça me fait penser à la citation célèbre de Friedrich Nietzsche, un philosophe allemand, qui dit « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Et peut-être qu'il y a un peu de vérité dans cette expression. « Ce qui ne me tue pas me rend plus dépendant de la force de Dieu. » Je sais que certaines personnes de cette assemblée ont beaucoup souffert dans la vie, beaucoup plus que moi. Et je ne veux pas que mes paroles soient perçues comme faciles ou banales, mais je vous encourage quand même à ne pas voir les difficultés de votre vie comme un signe de mécontentement de Dieu, comme si Dieu ne se souciait pas de vous. Mais plutôt comme des opportunités de persévérer dans la foi et dans le service de notre Seigneur Jésus-Christ. La formation de notre foi à travers les épreuves est une grâce de Dieu qui ne nous manque, pour qui ne nous manque rien. Mais la deuxième chose qui vient par la grâce de Dieu dans ce texte, c'est la sagesse. La sagesse au verset 5 à 8. La sagesse mentionnée au verset 5 à 8 est nécessaire pour produire en nous un bon caractère chrétien. Tout comme le proverbe 9, verset 10, fait un parallèle entre la sagesse et la foi en Dieu, et comme 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, aussi nous rappelle que la sagesse de Dieu ne peut pas être comprise par le monde déchu, Jacques aussi nous dit que la vraie sagesse est un don de Dieu, ça vient de Dieu. C'est une sagesse qui nous aide à mettre en perspective nos épreuves et à voir plus clairement le plan salvateur de Dieu pour son peuple. C'est facile de lire la Bible, mais c'est impossible de la laisser pénétrer dans notre cœur si Dieu ne nous donne pas la sagesse de la comprendre. C'est pourquoi pour certaines personnes, la Bible est un conte de fées ridicule, mais pour d'autres, c'est un trésor qui change la vie. Dans ce monde de l'Internet et des réseaux sociaux, l'information est endémique, mais la sagesse est rare, n'est-ce pas? Est-ce qu'il nous manque de la sagesse? Il faut demander à Dieu qui nous donne la sagesse et le discernement libéralement, c'est-à-dire sans limite. Imaginez que vous êtes en train de négocier un contrat de travail avec votre futur employeur et que vous demandez un salaire un peu plus haut que ce qu'il vous a proposé au début. Alors, il hésite, mais finalement, il dit « Oui, d'accord, pas de souci, votre CV est impressionnant, vous le méritez. » Mais avant qu'il finisse de vous donner son accord, vous l'interrompez et en demandez encore plus. Alors, s'il est très gentil, très généreux, de très bonne humeur, ou très ivre peut-être, ça va peut-être passer aussi. Mais imaginez qu'ensuite, vous demandez quelques semaines de congés supplémentaires, avec une courte semaine de travail et un véhicule de fonction et d'autres choses. Quel sera le résultat? Je vous assure que vous serez renvoyé avant même d'avoir signé le contrat. C'est que c'est comme ça. On peut trop demander. Ou imaginez si vous êtes enfant, vous demandez à vos parents de vous acheter des bonbons ou un nouveau jouet, quelque chose. Peut-être s'ils sont de bonne humeur, ils vous donneront leur accord. Mais imaginez que vous tiriez sur la corde un peu en demandant encore plus. Vous allez chercher un chariot à remplir. Vous demandez les articles les plus chers. C'est possible de trop demander, n'est-ce pas? Nous reconnaissons tous les problèmes potentiels qu'entraînent nos demandes excessives. Mais avec Dieu, nous ne rencontrons jamais d'énervement divin. Dieu nous invite à demander la sagesse souvent et dans des quantités importantes. De le faire sans douter, sans avoir peur que Dieu ne répond pas à nos besoins. Il nous demande de lui demander la sagesse. Le texte nous dit que celui qui doute est irrésolu. Littéralement en grec, ce que Jacques est en train de dire, c'est que ceux qui doutent ont deux âmes. Ils ont deux âmes. Ils sont divisés entre Dieu et le monde. Ceux qui doutent, c'est comme s'ils disaient « Je crois en Dieu, mais c'est ridicule de penser que Dieu réponde vraiment aux prières. Je crois en Dieu, mais c'est ridicule de penser qu'il est vraiment créateur tout-puissant. Je crois en Dieu, mais je sais que ses lois morales, ses miracles, toutes ces choses qu'il promet dans la Bible, je ne crois pas. » Vous voyez ? Je crois en Dieu, mais ça c'est parce que je suis chrétien et je suis censé prétendre croire. Ce gars-là, il a deux âmes. Mais pour que Dieu nous montre la richesse de sa sagesse, il nous demande la foi toute simple. Comme David a prié dans le psaume 86, « Donne-moi un cœur tout simple, indivisé. » afin que je crains ton nom. Et comme David, Jacques nous invite à demander la sagesse dans la prière. On peut demander à Dieu de nous donner le discernement pour contrecarrer ce que dit le monde avec ce que dit sa parole. On peut demander à Dieu de nous donner la sagesse de connaître Jésus par la foi. On peut demander à Dieu de nous aider à chercher la sagesse dans sa parole. On peut demander à Dieu de nous donner de marcher dans la présence de ceux qui sont sages, nos frères et sœurs en Christ. Ça commence par de simples prières. Dieu, donne-moi de discerner la vérité. Donne-moi la sagesse pour qu'il ne me manque rien dans la vie. Le dernier exemple de grâce divine se trouve dans ce texte, dans le discours de Jacques. Ça concerne l'homme riche et l'homme pauvre. D'accord, le principe de ce verset, c'est les versets 9 à 11. Le principe de ces versets est que Dieu nous donne l'humilité qui nous élève. Le discours est centré sur l'homme riche, tout simplement parce qu'il est difficile pour ceux qui ont la sécurité de leur richesse de reconnaître qu'il leur manque de l'humilité, qu'il leur manque le secours de Dieu. La question logique est, qu'est-ce qui pourrait manquer à un homme qui a tout déjà? Ceux qui ont tout ou qui pensent qu'ils ont tout ne reconnaissent pas que ce qui leur manque, c'est l'absence des choses. Et ce que je vais dire par là, c'est qu'il leur manque une dépendance complète de Dieu. Nous sommes prêts à recevoir la grâce de Dieu au moment où nous reconnaissons nos limites, notre dépendance et notre pauvreté spirituelle. Selon Jacques, l'homme pauvre, de condition humble, est mieux placé pour reconnaître son besoin de Dieu. Dieu montre régulièrement sa compassion à ceux qui sont monétairement pauvres et à ceux qui sont spirituellement pauvres dans la Bible, qui reconnaissent leur besoin d'un sauveur. Comment saisir la main, ou par la main, ce qui nous pourrait nous sauver de la noyade, alors que nos mains sont remplies d'or, vous voyez? Avez-vous jamais essayé d'ouvrir la porte de votre maison quand vous teniez trois ou quatre sacs de courses dans vos mains? C'est pas très facile, n'est-ce pas? De même, avez-vous jamais essayé de louer le Seigneur quand vous teniez dans vos bras l'idée que vous êtes le vrai maître de votre vie, le plus fort, le plus grand, le plus important, le plus digne? Jacques ne nous demande pas de vendre tout ce que nous avons. Ce n'est pas ça l'idée de ce texte, ou de vivre comme des mendiants. Mais il nous encourage à nous débarrasser de ce qui nous empêche de venir devant Dieu dans l'humilité et dans la repentance. Comment est-ce possible d'ouvrir la porte du royaume de Dieu quand nos mains sont pleines de nos propres œuvres? Comment est-ce possible de marcher avec l'esprit quand nous sommes accablés par le lourd fardeau de notre propre justice? Comment est-ce possible de profiter de la liberté spirituelle qui est en Christ quand nous sommes attachés à nos biens tangibles et temporels? Si le livre de Jacques n'est qu'un livre qui parle des œuvres, des lois et des pratiques, il me semble curieux que Jacques commence par un discours sur la grâce. Jacques ouvre son épître, non pas en parlant de ce que nous devrons faire ou devons faire pour nous-mêmes, mais en parlant de ce que Dieu fait pour nous selon sa grâce. Il nous pointe vers la foi en Dieu, qui nous donne libéralement sa grâce en Jésus-Christ, qui est mort pour nous à la croix, afin que par la repentance et la foi, il ne nous manque rien. Malgré les épreuves de la vie, malgré des circonstances diverses qui échappent à notre contrôle, Dieu nous donne sa grâce afin de nous donner ce que nous manque le plus, c'est-à-dire la foi qui nous mènera jusqu'à la perfection et jusqu'à la gloire. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole. Nous te remercions pour la sagesse que tu as révélée à travers cet épître. Et nous te prions, Seigneur, afin que tu nous aides à comprendre et de mettre en pratique ce que nous avons vu ce soir. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour pour nous, pour tout cet enseignement qui nous aide. Au nom de Jésus. Amen.